Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Vous êtes également ministre délégué à l'énergie et on l'apprend à l'instant. Il y a donc une Française malade sur le sol français, rapatriée la nuit dernière depuis la fameuse croisière. Elle a été testée positive à l'antivirus.
Elle a été testée positive. Au total, vous le savez, 5 Français étaient sur le bateau, dont cette femme, et 22 personnes ont été identifiées cas contact et évidemment contactées. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est 3 choses. D'abord, on suit la situation depuis le début avec la plus grande vigilance et c'est bien normal. Deuxièmement, c'est un virus qu'on connaît. On a du retour d'expérience sur ce qui s'est passé dans les mois et les années précédentes. Et ensuite, on prend des mesures drastiques, de manière assumée, des mesures les plus dures de l'Union européenne, avec un seul objectif, et c'est le seul objectif de la ministre de la Santé, c'est le seul objectif du Premier ministre, c'est de protéger les Français.
Les plus durs, alors on va venir effectivement sur ce que vous aviez prévu initialement, mais on peut le dire, vous n'aviez pas envisagé que l'une des personnes rapatriées soit véritablement positive à l'antivirus.
On sait qu'il y a un temps d'incubation qui peut être long. Les incubations se font majoritairement dans les 15 premiers jours, mais ce temps d'incubation peut durer jusqu'à 6 semaines. Et donc, l'ensemble des tests sont faits, l'ensemble des prises de contact avec les personnes qui sont cas contact ont été évidemment réalisées. Et la ministre de la Santé a annoncé hier l'isolement des cas contacts, 42 jours, d'où les mesures, là encore une fois, extrêmement strictes, avec un objectif, c'est de les protéger, d'abord de protéger leurs proches et de protéger l'ensemble de la population.
La personne testée positive, qui a donc présenté des symptômes dans l'avion retour, de la fièvre, de la toux peut-être, est-ce que ce matin, au moment où on se parle, elle est hospitalisée, à l'isolement, est-ce que vous en savez plus, où, quand, comment?
Alors, je ne peux pas vous dire si elle est déjà hospitalisée à l'isolement, si ce n'est pas encore le cas, elle va l'être indéniablement dans les toutes prochaines heures, et son état sera évidemment suivi avec la plus grande attention, c'est bien normal. Maintenant, je veux le redire, ne pas créer de panique, même si je comprends la crainte que l'on peut toutes et tous avoir au regard de ce qu'on a vécu ces dernières années. Nous n'en sommes absolument pas à avoir ces discussions-là. La situation est suivie, je le redis, avec la plus grande attention, mais c'est un virus que nous connaissons.
Vous m'avez
et c'est
dit,
extrêmement important.
Vous m'avez dit extrêmement strict pour les conditions d'isolement,
oui.
Mais tout de même, c'est 22 personnes, c'est déjà 2 de plus que ce que nous annonçait ce matin. Ce sont donc 22 personnes, vous nous dites ce matin, qui sont identifiées comme cas contact, 42 jours d'isolement, mais d'isolement comme une auto-isolement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont quand même besoin, pour certains, j'imagine, d'aller faire leurs courses, peut-être même de voir leurs enfants. Ils vont pas, je veux dire, ils ne sont pas à l'isolement à l'hôpital, ils sont à l'isolement chez eux.
Alors,
il y a pas de contrôle, il y a pas, et c'est bien normal. Mais je veux dire, vous comprenez quand vous dites extrêmement strict.
Il y a d'abord un passage de 3 jours en hospitalisation, c'est ce qu'a expliqué ma collègue ministre de la Santé hier. Et ensuite, il y a un isolement de 42 jours. Nous suivons, et c'est bien normal, les recommandations de l'OMS. Les modalités de cet isolement pourraient évoluer, ou tout du moins seront précisées dans les heures à venir, là encore par Stéphanie Rist, sur la base de recommandations médical, parce que je le redis, nous avons affaire à un sujet qui est un sujet médical, qui est un sujet scientifique, et donc notre responsabilité, c'est de suivre évidemment, scrupuleusement et à la lettre, ce que nous disent les médecins, et ce que nous disent les médecins est basé sur les connaissances scientifiques.
Pourrait évoluer, dites-vous, ça veut dire qu'il y a effectivement ce qu'on avait prévu initialement, et puis il y a la réalité, effectivement, cette nouveauté ce matin, avec l'un des 5 voyageurs qui est donc positif à l'antivirus, c'est-à-dire que le virus est techniquement, on peut le dire ce matin, présent sur le sol français. Quand vous dites pourrait évoluer, ça veut dire que potentiellement, au vu de cette nouveauté, on pourrait se dire que les 22 personnes, plutôt que d'être chez elles pour passer ces 42 jours d'isolement à leur sauce, j'allais dire, pourraient être gardées à l'hôpital.
Ce que je veux dire, c'est que ces modalités seront précisées, mais que là encore, nous prendrons toutes les mesures nécessaires, et je le dis pour rassurer les Français, toutes les mesures nécessaires pour protéger nos concitoyens.
Il y a une réunion qui a été annoncée annoncé cet après-midi à Matignon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Le Premier ministre a tenu une réunion hier. Vous le savez, il tiendra une nouvelle réunion cet après-midi pour suivre au plus près l'évolution de la situation. On voit que ça évolue d'heure en heure, avec ce matin cette personne qui était cas contact et dont le test s'est révélé positif. C'est bien normal que les pouvoirs publics, là encore, prennent la situation avec beaucoup de sérieux.
Maud Bréjon, une question encore, parce que dans l'avion américain, pour le coup, qui repartait et qui ramenait les voyageurs sur le sol américain, deux cas ont été suspectés. L'un a en effet été confirmé. Donc au moment où on se parle, parmi les Américains, il y en a donc un qui est testé positif à l'antivirus, l'autre qui est symptomatique mais dont on attend les résultats. Ça veut dire aussi que c'est une question désormais mondiale, avec aussi toutes les questions que ça pose. Alors pardon de vous reposer des questions qui ne sont dictées aussi que par l'expérience de ce que nous avons tous vécu, mais lorsqu'il y a deux semaines, au regard de ce qui se passe en Iran, on a dit craindre peut-être une pénurie d'un certain nombre de matériels médical, parce qu'il y a moins de plastique qui arrive, parce que le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, s'il fallait prendre des décisions, est-ce qu'on a les moyens de traiter une éventuelle pandémie si elle arrivait?
Je vais vous répondre parce que votre question est parfaitement légitime. Je commencerai par dire là encore que nous n'en sommes absolument pas à avoir ce type de conversation. Pour autant, la responsabilité de l'État, c'est évidemment d'être prêt, et nous sommes prêts le cas échéant. Mais attention, tout en répondant à votre question, je le redis, il n'y a pas lieu aujourd'hui d'affoler les Françaises et les Français. Les mesures les plus strictes sont prises. Là encore, c'est bien normal, c'est ce qu'on peut attendre de l'État. Nous suivons la situation avec la plus grande vigilance, sur la base d'un virus que l'on connaît, d'où les 42 jours d'isolement qui ont été décidés, et un objectif qui reste le même, protéger les Françaises et les Français.
Maud Bréjon, vous vous souvenez de l'expression « quoi qu'il en coûte » ? Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens. C'est-à-dire que si quoi que ce soit arrive, est-ce qu'on ne se repose pas la question de se dire est-ce qu'on a encore les moyens du quoi qu'il en coûte ?
Avec des si et des mais, on pourrait mettre Paris en bouteille. Là, je le redis, nous n'en sommes absolument pas là. Ce qui compte, c'est de casser cette chaîne de contamination. C'est de protéger les personnes qui sont cas contact, qui ont été touchées, notamment la personne qui a été révélée positive, de protéger leurs proches et de protéger plus largement les Françaises et les Français. Mais nous n'en sommes absolument pas à se projeter dans ce type de scénario.
C'est très clair, Maud Bréjon. Je rappelle donc qu'il y a une personne effectivement malade. Le test s'est avéré positif. 22 personnes, vous nous le dites, cas contact en France, et une situation et des procédures d'isolement qui pourraient évoluer si c'est justifié par les médecins. L'Iran menace la France directement, elle cite la France, si tout de même, si nous rentrions, disent-ils, dans le conflit, comment est-ce que le gouvernement et la France réagissent ?
Très calmement, simplement parce qu'il n'a jamais été question de déploiement, il n'a jamais été question de posture offensive. S'il y a bien un point sur lequel on a été, me semble-t-il, d'une clarté et d'une constance limpide et absolue depuis le départ, c'est sur la posture uniquement défensive de l'armée française. Le président de la République l'a rappelé à de nombreuses reprises. Nous avons dit et nous avons pris une initiative pour libérer le détroit d'Ormuz, là encore dans une posture strictement défensive, en coordination avec les différentes forces dans la région et lorsque les conditions de sécurité le permettront. Donc nous appelons chacun au calme. La position de la France, elle est connue. Ce n'est pas une guerre que nous avons voulu, ce n'est pas une guerre dans laquelle nous sommes impliqués, certainement pas de manière offensive, et nous appelons évidemment à ce que la région puisse retrouver son calme.
Le Charles de Gaulle, il est où au moment où on se parle ?
Alors je ne peux évidemment pas vous le dire.
Je ne demanderai pas forcément les latitudes et les longitudes précises.
Avec précision, ce que je peux vous dire, et le président de la République l'a dit hier, c'est qu'il s'est rapproché de la zone, là encore, pour pouvoir être le plus près possible des missions qui sont les nôtres. Le président de la République, avec une cinquantaine d'États, vous vous en rappelez probablement, a lancé cette initiative, a pris en main ces discussions pour pouvoir coordonner une libération pacifique, c'est extrêmement important, pacifique du détroit d'Ormuz, de telle sorte que...
Mais vous comprenez bien que les Iraniens, eux, ont une autre lecture, semble-t-il, c'est un peu ce qui ressort de la menace qu'ils expriment.
J'entends,
une
mais
autre
enfin,
lecture de ce que nous, on appelle défensif.
Je crois que nous avons, encore une fois, tenu des propos extrêmement clair et eu des actes extrêmement lisibles. Nous disons une chose, la circulation dans l'étroit d'Ormuz bénéficie à tout le monde. Elle doit pouvoir reprendre de manière pacifique, c'est conforme au droit international. Nous en avons besoin, notamment pour l'économie mondiale, on va sûrement en parler, mais on voit que les Françaises et les Français les citoyens au-delà paient aujourd'hui le prix à la pompe, notamment de ce qui se passe au Moyen-Orient.
Justement, Maud Bréjon, vous êtes ministre de l'énergie. Nous travaillons à de nouvelles mesures. Voilà ce que disait il y a quelques jours Sébastien Lecornu. On va changer d'ampleur et d'échelle. Voilà aussi ces mots. Quoi, quand, comment, qui ?
Très simplement, on a toujours dit qu'on adapterait les dispositifs en fonction de l'évolution de la situation. On voit que cette situation perdure. Et on sait aujourd'hui que quand bien même le conflit s'arrêterait demain, les effets se feront ressentir dans la durée. Il y a donc lieu de continuer à aider d'abord les Françaises et les Français que l'on aide déjà et à amplifier ces aides. Pour être extrêmement clair, davantage de Français seront aidés dans les semaines à venir parce que la situation devient de plus en plus difficile. Elle est de plus en plus difficile parce qu'elle dure et donc de nouvelles annonces seront faites par le Premier ministre d'ici à une semaine.
Pourquoi vous attendez ?
Tout simplement parce que nous travaillons sur les meilleures mesures. Vous savez que nous avons, là encore une fois, je crois, toujours été clair. Il n'est pas question de faire des mesures générales. Il faut aider ceux qui en ont le plus besoin, les Français les plus exposés, les secteurs aussi les plus exposés, parce que derrière, ce sont des emplois, et derrière les emplois, ce sont des salaires. Et en même temps, le faire de la façon la plus efficace et la plus respectueuse des finances publiques.
Donc, on aidera toujours dans des aides ciblées.
Voilà ce qu'on aidera toujours dans des aides ciblées. Il y a des premières aides qui ont été annoncées, vous le savez, pour avril. Elles ont été reconduites et amplifiées.
Est-ce que vous savez combien de personnes les ont demandées? Est-ce que vous savez si effectivement ça commence à être vraiment efficace?
C'est efficace. Des retours que nous avons, des échanges avec les différents secteurs concernés. Prenez les pêcheurs. Les pêcheurs, aujourd'hui, ne pourraient plus aller en mer et continuer leur activité si nous n'avions pas mis en place une aide sur le prix du gasoil pêche. C'est typiquement ce genre de mesure qu'il faut continuer. Et puis, en parallèle, on voit bien qu'il y a un certain nombre de Français qui sont en difficulté, pour qui le prix qui continue à être très élevé devient dur à supporter au quotidien. Il y a donc lieu d'augmenter, d'élargir le nombre de Français concernés.
Vous dites, on va amplifier et on va élargir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des professions qui jusqu'à présent n'avaient pas véritablement été prises en compte ?
Ça pourrait être le cas. Je dis encore une fois une chose.
Vous allez rajouter d'autres professions à la liste des professions aidées ?
Je dis qu'aujourd'hui, il y a les agriculteurs, les pêcheurs, le bâtiment et une partie des transports. À quoi s'ajoutent 3 millions de Français considérés comme gros rouleurs très modestes. Nous allons aller plus loin et
est-ce
étendre
que les aides soignantes
positifs.
Pose beaucoup de questions. Est-ce que les infirmiers libéraux?
Nous aurons l'occasion de le préciser dans les prochains
les
jours.
Taxis, mais les VTC vont être reçus aujourd'hui et demain.
De toute évidence, il y a davantage de Français. Davantage de Français seront aidés dans les semaines à venir parce qu'encore une fois, cette situation s'ancre et que ce qui compte pour
pardon,
nous,
je veux vraiment comprendre. Ça veut dire que vous pouvez vous envisager de rallonger la liste des professions aidées.
On envisage d'aider davantage de Français, je peux pas le dire autrement, que ceux qui sont aidés aujourd'hui parce que la situation perdure, parce que ce qui compte pour nous, c'est certes le déficit public, mais aussi le pouvoir d'achat des Français et notamment des Français les plus modestes. Beaucoup de Français aujourd'hui galèrent à faire leur plein. C'est difficile, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller à la station-service. Et parce que cette crise dure, ce qu'on ne pouvait pas nécessairement imaginer il y a 2 mois, eh bien parce que cette crise dure, il faut mettre en place ces aides.
Plusieurs questions encore sur cela. Maud Bréjon, vous qui êtes ministre de l'énergie, les distributeurs, vous avez quand même laissé entendre que peut-être il y aurait des abus. Le mot avait été lâché par le Premier ministre. Les rapports vous ont montré, on est bien d'accord, qu'il n'y avait pas eu d'abus.
Oui, on a fait notre travail. Le rôle de l'État, dans un moment comme ça, et de s'assurer que personne ne profite
mais eux, ils disent,
de la
mais
situation.
Mais eux, ils disent, il y a quand même un point qu'on pourrait faire de manière immédiate, c'est ce fameux certificat d'énergie, c'est ces 15 centimes à peu près par litre qui ont été appliqués depuis quelques mois seulement pour permettre de financer la transition énergétique. Est-ce qu'il serait pas raisonnable de se dire, bon bah c'est 15 centimes, on le fait un peu plus tard, et immédiatement, ça fait une baisse à la pompe ?
Deux choses. D'abord, nous sommes dans notre rôle quand nous vérifions que les uns et les autres ne profitent pas d'une situation, qu'il n'y a pas de marge imbue.
Mais vous avez eu la même exigence vis-à-vis de Total ?
C'est tout à fait normal. Nous avons demandé à l'échelle de l'Union européenne une enquête sur les marges des raffineurs, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue.
Et quel est le rapport ?
Premièrement, et je vais vous répondre si vous me permettez sur les C2E. Les C2E, c'est quoi ? Les C2E, c'est une contribution.
Le fameux certificat d'énergie.
Des énergéticiens qui date d'il y a bien plus longtemps que quelques mois et qui sert à financer des actions extrêmement concrètes de transition énergétique. Tous les Français qui nous écoutent, qui sont passés d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur, 180 000 uniquement l'année dernière. Les Français qui nous écoutent, qui ont bénéficié d'une aide pour passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, ont été en bonne partie aidés par ce qu'on appelle techniquement ces certificats d'économie d'énergie.
Donc pas question de les repousser ou de les couper.
Si on coupe ces aides-là, c'est autant de Français qu'on va arrêter d'aider pour sortir des énergies fossiles. Or, ce que nous montre cette crise, c'est quoi ? C'est que notre dépendance aujourd'hui aux énergies fossiles, au gaz, au pétrole, n'est plus tenable. Qu'on paye le prix de ces dépendances et qu'un des grands enjeux des 10, 15, 20 années à venir, va être de réussir à en sortir.
Total, qui est donc à la fois distributeur et raffineur. Les petits commerçants ou les distributeurs indépendants ont saisi l'autorité de la concurrence en disant, au fond, il y a quand même un paradoxe, c'est que vous, gouvernement, vous demandez une sorte de distorsion de concurrence, puisque vous demandez à Total de continuer à plafonner ses prix, et pendant ce temps-là, il y a un certain nombre de petites stations qui se retrouvent dans la difficulté.
Oui, nous, on demande une chose simple, on demande à tous ceux qui le peuvent d'œuvrer en faveur du pouvoir d'achat des Français. Moi, je ne suis pas porte-parole des distributeurs, je suis porte-parole du pouvoir d'achat des Français. Et donc, quand Total, qui fait par ailleurs des bénéfices importants, redistribue en France une partie de ses bénéfices en plafonnant les prix
sur le gasoil et sur l'essence,
qu'il ne le fait qu'en France, alors qu'il est présent dans 70 pays, je pense, oui, que c'est une très bonne chose pour les Français qui en bénéficient. Voilà.
Et les autres distributeurs indépendants qui vous disent, en fait, c'est une distorsion de concurrence parce que nous, on se retrouve avec un certain nombre de nos stations essence qui sont avec une baisse parfois de volume jusqu'à 30%.
Encore une fois, j'entends la difficulté que peuvent avoir certains.
Je me fais l'avocat du diable. Évidemment que quand on est l'automobiliste et qu'on a le choix entre Total qui vous vend de l'essence moins chère et la station indépendante quand il en reste, qui évidemment peut pas faire le même effort, bien sûr que à titre individuel, chacun préfère aller
d'abord,
faire son plein là où c'est moins cher. Mais vous comprenez
Total,
le problème.
Total, c'est 25% du carburant vendu en France. Et quand je dis 25% du carburant, c'est pas uniquement le carburant vendu dans les stations Total, c'est aussi le carburant que Total vend à d'autres distributeurs. Je ne vais pas citer de marque. Ce que je vous dis là, c'est que le carburant français n'est pas uniquement
vendu. Donc vous êtes satisfait de l'attitude de Total aujourd'hui.
J'estime que c'est une nécessité. Voilà. J'estime que, en réalité, au regard des bénéfices que fait Total, il est bien légitime que Total redistribue une partie de ses bénéfices indirectement via ses prix plafonnés.
Deux questions encore. Vous disiez avoir demandé au niveau de l'Union européenne une enquête sur les marges des raffineurs. Là, on parle plus des marges des distributeurs. Ça, vous avez fait l'enquête ici, mais des raffineurs, quels sont les résultats de cette enquête ?
Nous ne les avons pas encore, mais on les communiquera évidemment et on ne s'interdit aucune mesure si des marges excessives étaient constatées.
Il pourrait y avoir des abus.
Encore une fois, aujourd'hui, nous n'en avons pas identifié, mais si des abus étaient identifiés, on ne s'interdit rien.
Certains
c'est bien
normal.
Certains
députés demandent une commission d'enquête sur les prix du carburant. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Moi, je suis par principe favorable au droit de contrôle des parlementaires.
Donc, pourquoi pas une commission d'enquête sur le prix des carburants ?
Ils sont tout à fait libres de le faire. Je pense qu'il y a un besoin de transparence. Voilà pourquoi nous avons mis en place des contrôles. Voilà pourquoi nous avons fait la transparence sur les marges. J'ai compris que ça n'avait pas forcément plu à certains distributeurs au premier abord. Finalement, tout ça est rentré dans l'ordre. Si certains parlementaires veulent aller plus loin dans la transparence, ils sont tout à fait libres et légitimes de le faire.
Merci beaucoup, Maud Bréjon, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'énergie. Et je vous rappelle cette information, vous nous l'avez confirmée à l'instant. Une personne positive à l'antivirus. 22 cas contacts identifiés en France. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.